Avec la démocratisation des CD enregistrables, les disques durs de capacité confortable et la popularisation du format MP3, très vite, les labels ont vu que leurs disques commençaient à se faire copier et ils craignaient que les ventes de disques s'effondrent. Ils avaient raison. Le rip d'un CD pour dupliquer ou le convertir en MP3 se fait généralement avec un lecteur de CD-ROM d'ordinateur. Très rapidement en 2000, des entreprises cherchent à les empêcher en jouant sur les différences de format entre compact disque audio et CD-ROM, créant des incompatibilités artificielles. Ce hack sera celui utilisé par la protection anti-copie la plus répandue, Copy Control. Leur truc était de générer plusieurs tables d'allocation pour le CD, dont seule la première est juste. Les lecteurs CD audio ne liront théoriquement que la première déclaration de table d'allocation. Les lecteurs CD-ROM liront la deuxième, qui est buggée, ce qui empêchera toute tentative de rip. Le procédé inclut d'autres protections, comme des incohérences dans les bits de correction d'erreur, des sauts de déclaration de piste, bref, de multiples infractions au standard. Or, si le piratage est interdit, la copie pour un usage privé est autorisée dans le cercle familial, puisqu'il s'agit d'une exception au droit d'auteur. Et depuis l'arrivée de la cassette audio, les sociétés de droit d'auteur perçoivent en France une perception spécifique pour la copie privée sur les supports vierges, qu'ils soient cassettes, CD enregistrables, mais aussi disques durs, disquettes, clés USB et même smartphones. Une taxe qui est théoriquement remboursable pour les professionnels, mais très difficilement dans les faits, et qui ne couvre que les copies à usage personnel, pas les copies illicites comme les MP3 téléchargés illégalement. Eh oui, mais ça on en reparlera un autre jour. Donc, Copy Control fut complété un peu tardivement d'un logiciel embarqué dans la partie CD-ROM pour permettre certaines actions. Lire le CD depuis l'ordinateur sous Windows, ripper dans un format audio propriétaire, WMA, avec des DRM, et graver des copies avec une qualité audio dégradée. Bizarrement, cette ouverture n'a pas déclenché l'enthousiasme des consommateurs. La tendance des ventes était toujours à la baisse.
Plantage.
Philips, qui a pourtant un label musical, prend très vite ombrage des bricolages de Copy Control et interdit strictement l'usage du logo officiel Compact Disc sur tout album usant de mesures anti-copie. Et Philips, dans le même communiqué, va troller les autres majors en promettant un graveur de CD capable de contourner les mesures anti-copie. Mais la disparition du logo Compact Disc sera anecdotique, contrairement à l'apparition d'une signalétique bien plus visible indiquant que l'album que vous allez acheter inclut un dispositif anti-copie. Dommage collatéral, le CD avec un système anti-copie était illisible chez une part non négligeable d'acheteurs. Et à l'époque, il était impossible d'obtenir remboursement à la Fnac ou chez Leclerc d'un CD acheté et déballé, justement par soupçon de piratage. Le consommateur était doublement puni, en plus d'être accusé à tort d'être un pirate. Et souvent, pour lire les albums protégés, le consommateur se tournait vers le peer-to-peer, le piratage sauvage et le gravage anarchique pour obtenir une version audible de l'album qu'il avait pourtant acheté, le dit particulier jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Comment des équipes commerciales ont-elles pu se fourvoyer à ce point? Pourtant, cela faisait 10 ans que le fameux procédé Macrovision anti-copie des VHS posait des problèmes de lecture sur les magnétoscopes haut de gamme, ce qui pénalisait les clients les plus susceptibles d'acheter d'autres VHS. Les protections anti-copie devinrent un repoussoir, sujet de procès par des associations de consommateurs contre les majors qui les emploient, avec un argument inattaquable. Le vice caché introduit ne comporte pas une liste exhaustive des appareils conformes aux standards CD affectés par la dite protection. Je ne suis même pas sûr qu'il soit possible de mettre une telle liste, si elle existe, au dos d'une jaquette d'album. Et la bataille est techniquement perdue car les protections n'empêchent pas un rip par la voie analogique ou des logiciels comme iTunes ou CD Paranoia. Et surtout, les ventes d'albums continuent à s'effondrer. Et pourtant, l'industrie a non seulement persévéré mais a carrément franchi la ligne rouge quand Sony BMG a piégé ses albums avec un logiciel qualifiable de malicieux, un rootkit. XCP, Extended Copy Protection, était une mesure de protection anti-copie ne respectant aucune éthique logicielle. Il s'installait dès que le CD était inséré dans un ordinateur sous Windows, qui à l'époque avait une fonction qu'on peut qualifier de très dangereuse, l'exécution automatique d'un programme contenu sur tout support amovible, XCP masquait son identité, cachait ses fichiers, modifiait des appels système, empêchait sa désinstallation, espionne l'usage du PC et pire, créait des trous de sécurité dans Windows qui n'en avaient vraiment pas besoin à l'époque. Tombant là-dessus, le chercheur en sécurité Mark Russinovich aura cette sortie assassine le jour d'Halloween 2005. Les mesures de protection anti-copie sont allées trop loin. À peine découvert, le mécanisme de rootkit est réemployé dans des virus. Le spécialiste Bruce Schneier urge les éditeurs d'antivirus et Microsoft à bloquer le malware. Sony BMG d'abord nie le rootkit, puis reconnaît à demi-mot et publie un pseudo-correctif qui ne fait qu'aggraver le trou de sécurité. Le Pentagone appréciera moyen de retrouver XCP dans son réseau. Pendant 2 semaines, chaque matin amène sa mauvaise surprise. Sony BMG est obligé de retirer en cata ses albums des magasins à 1 mois de Noël. En 15 jours, la réputation de la Major est en miettes. Les ventes de ses stars se sont effondrées. Son PDG viré, Sony BMG reconnaîtra les actes de piratage. Un comble. Et par là même, il devenait évident que les lois réprimant les copies illicites étaient beaucoup trop en faveur des éditeurs de disques. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai un message personnel. En ces riches heures, j'ai eu fort à ferrailler en place publique à l'époque des lois DAD, VSI et Adopi, notamment avec le patron d'Universal Music, Pascal Nègre. Ce monsieur représentait 40% de l'édition musicale en France et d'ailleurs était justement le président du SCPP, la Société Civile des Producteurs Phonographiques. Pascal Nègre souhaitait des lois fortes contre le piratage musical avec des propositions qui me semblaient inacceptables pour le particulier. Et il n'était pas le seul. J'en ai vu d'autres dans un autre secteur du divertissement. Sauf que sa position numéro 1, sa garde-robe de Mac, son rôle de juge à la Starac et ses sorties tonitruantes en ont fait un méchant cathartique. Mais à sa décharge, il fut le seul patron de Major Musical sur les 5 à cette époque à avoir refusé d'incorporer des protections anti-copies sur ses CD. Car il savait que les lecteurs professionnels, la plupart des autoradios et une bonne partie du public ne pouvaient lire les 10 CD. Oui, Pascal Nègre, si jamais, par le plus grand des hasards, tu m'écoutes ou que tu me lises, on a plusieurs fois discuté sans se rencontrer. Et je te reconnais cette immense qualité, celle d'avoir refusé de punir un client pour ce qu'il n'est éventuellement pas, d'avoir respecté sa présomption d'innocence, à la différence de la majorité du SCPP. Et j'imagine que cela n'a pas dû être simple pour imposer ta décision au sein de ton propre employeur. Le destin te fut cruel. De patron d'Universal, te voici animateur radio sur RFM, car tu t'es trompé dans l'ordre des lettres en postulant chez FMR.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM.
C'est affreux. Après l'affaire Sony BMG, l'insertion de mesures anti-copie dans les CD est officiellement abandonnée par les majors en 2006. Au final, toutes les protections anti-duplication de CD audio ont été des échecs. Le logo anti-copie était devenu un motif de refus d'achat, les majors perdaient des procès face aux associations de consommateurs, ce qui leur faisait une mauvaise publicité, et une évidence. L'industrie du divertissement vend des appareils volontairement défectueux. Ces mesures de protection ont coûté cher pour ne pas éviter l'inévitable, la dématérialisation de la musique, illégale ou pas.